France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho, votre magazine d'économie sur France Culture, soit une heure en direct pour tendre l'oreille à tous les échos de l'écho. Au programme aujourd'hui, on essaye d'y voir plus clair dans les intentions américaines vis-à-vis du secteur de l'énergie. Il y a certes le pétrole au cœur de la manœuvre de Trump au Venezuela, mais aussi la récente stratégie nucléaire du président américain. Alors de quoi cette doctrine de domination énergétique est-elle le nom? C'est la question que nous allons poser à la journaliste Eva Thiebaud et au chercheur Thibaut Michel. Et en deuxième partie, on regarde du côté de la recherche, comment elle nous aide à mieux comprendre les dynamiques économiques hier et aujourd'hui. Et c'est le fil de la dette telle qu'elle est vécue au quotidien, dans sa capacité à user ou au contraire à tisser des liens entre les individus que nous allons suivre dans une nouvelle série dont le premier épisode commence au Brésil, où 20% de la population adulte est en situation de surendettement. Le socio-anthropologue Timothée Naring est allé à la rencontre de cette population et il sera notre invité aujourd'hui. Enfin, à 14h55, place au fil de l'écho, tiré par l'économiste Alexandra Roulet, qui nous raconte aujourd'hui pourquoi les inégalités de salaire entre femmes et hommes persistent de l'ordre de 22%. Vous avez donc le programme de cette émission, préparé par Tina Young, réalisé par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger. Un grand merci à tous les trois. Une émission qui commence comme de coutume par un retour sur l'actualité de la semaine passée.
Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
C'est une prise de parole qui a eu lieu hier. Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine, a annoncé que cette dernière était menacée de poursuites par le ministère de la Justice américain sur un prétexte fallacieux selon lui. Ce dont il est vraiment question, c'est ce qu'il nous racontait à l'instant, c'est de savoir si la Fed sera capable de continuer à déterminer ses taux en se fondant sur les conditions économiques ou si la politique monétaire doit être dirigée par les pressions politiques et les intimidations. Ce n'est pas la première fois que l'institution est menacée. Nous avions consacré une émission à ce sujet il y a quelques semaines, mais cette fois la bataille se fait bien réelle pour la Fed, dont le bon fonctionnement repose, on le rappelle, sur son indépendance. Autre annonce qui a également eu lieu hier, c'est celle d'Ursula von der Leyen qui a confirmé qu'elle signerait bien le traité de libre-échange avec le Mercosur le samedi 17 janvier prochain, alors que la colère des agriculteurs persiste un peu partout en Europe. Et en parlant de dossiers à la fois brûlants mais qui paradoxalement traînent, samedi les députés ont rejeté en commission le budget de l'État après 28 heures de discussion. Le texte tel qu'il a été discuté au Sénat arrivera demain à l'Assemblée et les solutions pour éviter le blocage ne se bousculent pas franchement au portillon, passage par ordonnance ou 49-3. Alors les avis sur la gravité de la situation divergent, certains avancent que recourir à la loi spéciale pendant trop longtemps pourrait coûter cher, très cher. Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, avait ainsi estimé son coût à 11 milliards d'euros, c'est 12 milliards du côté de Bercy, un chiffre que ne trouve pas Philippe Juvin, rapporteur général du budget au Sénat. Dans un entretien accordé au magazine Challenge en décembre et paru la semaine dernière, le patron de l'INSEE, Fabrice Langlard, souligne que les prévisions de croissance sont légèrement plus élevées qu'attendues pour la France, de l'ordre de 0,9% en 2025. La France semble donc être montée dans le train de la reprise européenne. Voilà comment il analyse la situation actuelle, de façon un peu plus optimiste donc. Les débats entre économistes continuent d'alimenter le débat public. Cette semaine, on a retrouvé dans les pages du Monde une discussion par tribune interposée autour de la réalité du décrochage européen, celle des économistes Philippe Aguillon, Antonin Bergeau, Gilbert Sept, Xavier Jaravel, à lire juste après ou juste avant, c'est selon, celle du prix Nobel d'économie Paul Krugman. États-Unis versus Europe, c'est aussi l'objet de l'analyse d'Augustin Landier et David Tesmar, publié dans les pages de l'Express mercredi dernier. L'Express qui fait d'ailleurs peau neuve et sort une nouvelle formule qui se tourne pleinement vers l'Europe. Un homme avait conscience de ce rôle des économistes en tant qu'experts, c'est Roger Guénery, titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale au Collège de France de 2000 à 2013, dont on a appris le décès le 3 janvier dernier.
Je viens de cette frange des économistes qui sont dans la tradition colbertiste. Moi, j'ai été éduqué un petit peu dans cette tradition, j'étais proche du commissaire du plan. Le commissaire du plan, c'était une idée sur la manière dont l'État pouvait servir à réguler, impulser l'économie, en quelque sorte. Donc, je me suis dit dans cette tradition colbertiste. Donc, moi, je pense que là, je suis dans mon rôle en initiant un débat sur un sujet important, entre des gens qui ont des opinions différentes, mais qui sont également fondées. Enfin, qui sont fondées par un vrai savoir. Moi, mon rôle, je le conçois comme ça. C'est-à-dire, je fais de la théorie économique et sur les problèmes de politique économique, j'essaie de mettre en face les gens qui ont des choses à dire et qui sont compétents. Moi, je souhaite assez profondément qu'il y ait non pas un marché concurrentiel des connaissances, je préférerais dire un oligopole de production des connaissances, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient des idées différentes, qui élaborent des visions du monde différentes, que l'on va confronter aux faits et puis que le meilleur gagne.
Roger Guénery en 2013 sur France Culture qui nous rappelait l'importance de sa discipline comme espace de débat et de partage des connaissances. Et de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas que nous franchissons tout de suite en faisant place à notre question d'actualité du jour, direction les États-Unis.
La crise de l'inflation est due à des dépenses excessives et à la hausse des prix de l'énergie. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui une urgence énergétique nationale. Voilà ce que nous allons faire.
Drill, baby, drill.
Les compagnies pétrolières vont s'installer là-bas, elles vont dépenser de l'argent. Nous allons récupérer le pétrole que franchement nous aurions dû récupérer il y a longtemps. Beaucoup d'argent sort du sol, nous allons être remboursés pour tout cela. Nous allons être remboursés pour tout ce que nous dépensons. Nous devons être entourés de pays sûrs et sécurisés. Et nous devons également disposer d'énergie. C'est très important. Nous devons disposer d'énergie, de véritable énergie, et non pas d'une énergie qui n'est extraite du sol qu'à 4 ou 5%.
L'annonce de ce matin est pour le moins surprenante. Trump Media and Technology Group ont déclaré qu'ils allaient fusionner avec TAE Technologies, société spécialisée dans la fusion nucléaire. Cette transaction s'élève selon eux à 6 milliards de dollars. Les actionnaires de chaque société détiendront environ 50% de la société fusionnée.
L'intervention des États-Unis au Venezuela et l'arrestation de son président Nicolas Maduro ont concentré les regards sur la stratégie pétrolière de Donald Trump. Mais derrière ce coup de force-là, c'est toute une politique énergétique tissée depuis le fameux drill baby drill qui se dessine et qui passe aussi par le secteur nucléaire américain dont Trump a promis qu'il entrait dans une nouvelle ère en mai dernier. Alors de quoi est-il question au juste ? Est-ce qu'il s'agit d'affirmer la puissance américaine à l'export et de maintenir une partie de la planète en état de dépendance ? Est-ce qu'il s'agit de gagner la bataille des prix de l'électricité ? Au cœur des inquiétudes des ménages américains alors que les élections de mid-terms approchent et que la popularité de Trump s'affaisse, est-ce qu'il s'agit encore de favoriser une poignée d'industriels de la tech qui a besoin de l'électricité pour faire fonctionner ses centres de données ou ceux du secteur des hydrocarbures qui ont pour la plupart soutenu, y compris financièrement, Donald Trump? Alors entre stratégie mondiale et besoins domestiques, comment définir cette doctrine économique en matière d'énergie de Trump? Et pour répondre à toutes ces questions, deux invités sont avec moi aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Thibault Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, également avec nous à distance. Eva Thiebaud, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante spécialisée dans l'industrie, l'énergie et l'environnement avec une perspective assez internationale. Vous vous êtes d'ailleurs rendue aux États-Unis entre mai et juillet 2025 afin de répondre à cette question. Pourquoi les États-Unis relancent le nucléaire civil ? Ce qui est d'ailleurs le titre de votre article paru dans le Monde Diplo ce mois-ci. Et vous êtes avec nous depuis les studios d'ici à Aix, une liaison qui est assurée par Juliette Delperroux. Je l'en remercie vivement. Alors on l'entendait dès le 20 janvier 2025 lors de son discours d'investiture. Donald Trump déclarait l'état d'urgence nationale. Thibault Michel, qu'est-ce qui justifie cette urgence aux yeux de Donald Trump? D'où vient le danger en termes d'énergie qui justifierait la mise en place d'une telle doctrine?
Alors je pense qu'au-delà de cette question d'un danger pour les États-Unis, il y a vraiment cette approche qu'il faut bien avoir en tête, celle de l'administration Trump depuis le mandat Trump 1, qui est la domination énergétique. La domination énergétique, ça supplante cette question de seule sécurité énergétique, c'est-à-dire il s'agit évidemment d'être souverain sur ses propres approvisionnements en énergie, mais aussi d'utiliser l'énergie comme un outil à la fois commercial et géopolitique, comme un outil pour disposer de leviers d'influence à travers le monde. Et ça, ça peut se faire via la fourniture de pétrole, via la fourniture de gaz, via la fourniture d'énergie à travers le monde. Et je pense que vraiment cette question de l'urgence énergétique, elle s'inscrit dans cette approche et dans ce qu'elle permet, c'est-à-dire que l'urgence énergétique permet le fait de l'avoir déclaré, permet d'agir par décret de manière fréquente. C'est ce que fait Donald Trump sans forcément recourir au Congrès. Et c'est ce qu'il a fait. On l'a vu avec 6-7 premiers décrets qui ont été signés dès sa prise de fonction le 20 janvier. Il y en a eu d'autres par la suite, il y en a eu sur le nucléaire notamment, vous l'avez évoqué. Donc voilà, évidemment, il y a cette justification qui est de dire, comme Donald Trump l'a fait dans son discours de décembre, en disant « j'ai hérité d'un désastre, donc voilà, il y a une urgence, il faut agir ». Mais au-delà de ça, on s'inscrit vraiment dans cette ambition de domination et dans les potentialités qu'offre cette approche d'urgence.
Donc si je vous comprends bien, il y a le discours et puis la méthode qui va avec également Thibault Michel, mais pour bien verrouiller cette question-là, on est d'accord que ce discours-là, ce discours d'urgence énergétique, il n'est pas nécessairement lié aux besoins domestiques des États-Unis dans l'absolu. Si on essaye par exemple de relire l'épisode vénézuélien à cette aune-là, on est d'accord que ce n'est pas nécessairement pour répondre à une demande intérieure, une demande nationale, que Donald Trump avait des vues sur le pétrole vénézuélien. C'est pas ainsi qu'il faut lire l'événement.
Alors effectivement, il y a quelque chose d'un peu plus complexe tout à fait, qui est que ce pétrole vénézuélien a un intérêt pour les États-Unis, notamment parce que il présente vraiment un intérêt pour les raffineries américaines, notamment du Golfe du Mexique, qui ont été construites dans les décennies 70, 80, 90, notamment pour traiter du pétrole plutôt lourd. Les États-Unis maintenant.
Du pétrole vénézuélien.
Exactement. Les États-Unis maintenant produisent depuis quelques années du pétrole de schiste, qui est un pétrole plutôt léger, et donc évidemment ce pétrole vénézuélien est adapté à ce modèle de raffinage. Au-delà de ça, le calcul qui est fait, sans doute aussi par l'administration, c'est d'handicaper la Chine, qui était la principale acheteuse de ce pétrole vénézuélien.
80% du pétrole vénézuélien allait vers la Chine, donc on se doute qu'effectivement ça risque sérieusement de les embêter.
Tout à fait. Et au-delà de ça, en revanche, sur la production de pétrole en elle-même aux États-Unis, c'est une production qui est plutôt croissante et qui se chiffre en proportion très importante. On approche maintenant les 14 millions de barils jour de pétrole brut. La production vénézuélienne est en dessous de 1 million de barils jour. Donc il y a probablement quelque chose à en tirer, mais avec ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire de nombreux investissements pour extraire et exporter ce pétrole vénézuélien vers les États-Unis.
Bien, on se doute bien qu'effectivement, il y a peut-être des stratégies diplomatico-commerciales qui se greffent à cela, puisqu'on pourrait se dire que les États-Unis sont déjà des exportateurs en soi de pétrole. Ce sont les premiers producteurs mondiaux. Donc, on pourrait se dire qu'est-ce qu'ils sont allés chercher effectivement au Venezuela en surplus. Eva Thiebaud, on a bien conscience de cette idée d'une urgence énergétique. On l'a dit aussi avec Thibault Michel, qui infuse bien au-delà de la simple question du pétrole. Le 28 octobre dernier, le gouvernement américain a annoncé investir 80 milliards de dollars pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors c'est en partenariat avec l'énergéticien, pardonnez-moi, privé Westinghouse. Pourquoi une telle volonté? Est-ce qu'il y a là encore un problème, on va dire, d'approvisionnement électrique national aux États-Unis?
Il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, il y a une perspective internationale. Il y a une concurrence internationale sur la construction de centrales nucléaires où les États-Unis sont en concurrence notamment avec la Chine ou la Russie. Et du coup, relancer la construction de centrales nucléaires, potentiellement, ça peut leur permettre de se replacer dans la course à la vente de centrales nucléaires au niveau international. Mmh. En sachant que ces dernières années, Westinghouse et les États-Unis n'ont pas construit beaucoup de centrales sur le territoire. Depuis la catastrophe de Three Mile Island en 79, il y a eu un coup d'arrêt du nucléaire, une tentative de relance dans les années 2010, mais très peu de centrales ont été construites. Donc il y a une volonté de remettre un petit peu en route cette machine nucléaire sur le sol pour pouvoir se reprojeter à l'international. Ça, c'est la question, du coup, hein. C'est le volet international. Puis il y a aussi le côté domestique. Donc, il n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui, on vit un boom de l'intelligence artificielle avec de très nombreux centres de données, data centers qui sont construits aux États-Unis et qui consomment et vont consommer de plus en plus d'énergie, même si les prévisions sont aujourd'hui pleines d'incertitudes. Et du coup, il faut alimenter ces centres de données. Et pour ce faire, il y a plusieurs solutions énergétiques qui peuvent se poser. Bien sûr, les centrales à gaz et pourquoi pas dans le futur le nucléaire. Donc c'est dans cette optique-là que ces annonces ont été faites récemment.
Et c'est intéressant parce qu'on a mentionné donc le pétrole, le nucléaire, vous venez de mentionner le gaz, Eva Thiebaud, mais Thibault Michel, il y a une source d'énergie dont on n'a pas encore parlé et qui du reste ne figure pas dans les discours de Donald Trump, c'est les énergies dites vertes, dites renouvelables. Pourquoi elles ne font pas partie de cette doctrine de domination énergétique selon Trump ?
Alors, il faut bien distinguer, en fait, ce que, il y a vraiment une classification qui est faite par l'administration entre ce qui est pilotable et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez d'un côté tout ce qui est pilotable, c'est-à-dire ce dont on peut moduler la production comme on le souhaite. C'est le cas des énergies fossiles, la production d'électricité, j'entends. C'est le cas du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, mais également de sources d'énergie comme l'hydroélectricité, comme la géothermie. Sur les sources d'énergie renouvelables pilotables, donc comme l'hydroélectricité ou la géothermie, l'administration n'a pas mis de frein sévère. Officiellement, ces énergies sont acceptées et promues. Elles n'ont, par exemple, les crédits d'impôt de l'Inflation Reduction Act n'ont pas été supprimés pour ces deux sources d'énergie. Là où ils sont supprimés et là où il y a une vraie différence, c'est avec tout ce qui va être intermittent, c'est-à-dire principalement le solaire et l'éolien. Et là-dessus, on a une vraie attaque en règle depuis le début du mandat Trump 2. Le dernier exemple en date, c'est l'arrêt de ces cinq projets d'éolien offshore fin décembre. Et là-dessus, on a une vraie offensive qui est menée. Parce que, selon l'argumentaire qui est développé par la Maison-Blanche, ce sont des sources d'énergie qui ne sont pas fiables, car intermittentes, et ne sont pas rentables non plus, parce que leur intermittence fait que vous ne pouvez pas utiliser les comparatifs de prix de la même manière. C'est ce qui était avancé, par exemple, par le commissaire à l'énergie dans son audition en janvier, qui expliquait « Est-ce que vous choisiriez un Uber qui est 10% moins cher si vous ne savez pas à quelle heure il va arriver et où est-ce qu'il va vous emmener ?» Voilà, c'est l'argument qui est avancé.
Contestable pour le moins. Et puis se pose une autre question par rapport au secteur qu'on a évoqué, donc nucléaire et hydrocarbures. On a commencé à l'évoquer avec le cas des raffineries, mais finalement on peut aussi se poser la question dans la mesure dans laquelle ça correspond à des intérêts plus privés, plus particuliers, qui correspondent aux géants de ce secteur-là, qui pèsent d'un point de vue économique, mais aussi politique. Jeudi dernier, le 8 janvier, le sénateur démocrate du Rhode Island, Sheldon Whitehouse, fustigeait justement la politique énergétique de Donald Trump. On l'écoute.
Chaque jour de retard dans la production d'électricité éolienne offshore propre en Nouvelle-Angleterre, c'est un jour de plus à produire de l'électricité à partir de combustibles fossiles. Il s'agit d'un transfert direct de l'argent issu des portefeuilles des citoyens vers les grands donateurs du secteur des combustibles fossiles, ceux-là même qui ont investi des centaines de millions de dollars dans la campagne de Trump. Il rembourse ses grands donateurs corrompus avec votre argent. Voilà ce qu'il se passe.
Eva Thiebaud, dans quelle mesure on peut voir la politique énergétique de Trump, a fortiori en ce qui concerne le nucléaire, puisque vous avez mentionné quasiment directement aussi la dynamique en ce qui concerne l'IA et donc ses besoins en termes de centres de données, dans quelle mesure tout ça correspond à une façon de favoriser un secteur qu'il a largement soutenu, en l'occurrence celui de la tech ? Est-ce que les liens sont avérés ?
Il y a un certain nombre de liens, en effet, entre le secteur de la tech, le gouvernement américain et le nucléaire. Je voulais juste rebondir peut-être sur ce que disait Thibault Michel avant, par rapport aux énergies renouvelables, et par rapport au secteur par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, c'est un autre exemple qui montre comment les énergies renouvelables ont été complètement mises de côté depuis le début de ce nouveau mandat. La construction de tous ces nouveaux centres de données consomme énormément d'énergie, et pour assurer la consommation de ces centres de données, c'est d'abord le gaz qui a été privilégié avec la construction de nouvelles centrales gaz et l'extension de centrales gaz, tandis que les projets d'énergie renouvelable ont été retardés. Donc, par exemple, si on prend la zone de la Virginie, où de très nombreux centres de données sont construits, les centrales à charbon ont été aussi étendues, et les centrales gaz, excusez-moi.
Et on le comprend de toute façon, Eva Thiebaud, qui a effectivement une politique aussi qui est très liée aux États en eux-mêmes. Vous parliez de l'État de Virginie qui est particulièrement concerné par cette demande-là et ce qui provoque aussi des conflits et des tensions à l'échelle locale. On voit qu'il y a eu des arbitrages qui ont été faits effectivement entre gaz, charbon et puis énergie verte qui sont relativement passés à la trappe. Thiebaud Michel, tout de même, pour continuer sur cette idée d'intérêt privé, là on parle d'intérêt encore plus privé que privé, puisqu'il y a quand même eu une annonce, on l'entendait au tout début de l'émission, le 18 décembre dernier, la maison mère du réseau Truth Social qui a été fondée par Donald Trump s'est alliée avec la société américaine TAE, je le dis en français, qui développe une technologie de fusion nucléaire. C'est un mariage qui a beaucoup étonné, parce que les deux n'ont a fortiori pas grand-chose à voir. Et puis il y a aussi un énorme risque de conflit d'intérêts. D'ailleurs, dès que l'annonce est tombée, la fortune personnelle de Trump a augmenté de 400 millions de dollars. Comment on peut comprendre une telle manœuvre ? Qu'est-ce qui se passe du côté de Donald Trump ? Et là, vraiment, en tant qu'individu, presque en tant que personnage économique, qu'agent économique, plus qu'en tant que président des États-Unis ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment cette annonce-là est le révélateur, ou plutôt un des symboles de cette tendance qu'on observe, à savoir cette compromission entre secteur public et privé, mais sur de nombreux aspects. Il y a évidemment cette union-là. La manière dont la comprendre, c'est probablement que pour TAE, c'est un accès facilité au marché financier. Pour le groupe Trump, c'est un moyen de montrer qu'il s'investit sur la production d'électricité à venir, notamment pour nourrir l'intelligence artificielle, qui va être un énorme consommateur d'électricité aux États-Unis et qui va accroître cette consommation d'électricité dans les années à venir. Donc voilà, il y a vraiment cette compromission entre public et privé, mais qui se retrouve sur de nombreux autres secteurs. C'était le cas pour les crypto-monnaies, dans lesquelles Donald Trump s'intéresse beaucoup, et secteurs qui dérégulent. Et il y a vraiment cette idée que on va avoir donc un actif contrôlé en grande partie par le président américain, qui a des activités et des intérêts dans un secteur qui est lui-même réglementé par la Maison Blanche et par les actions que la Maison Blanche peut prendre en la matière. Donc tout à fait, ça a été relevé et il y a un risque de conflit d'intérêts qui est manifeste et très, très palpable. Ouais.
Et puis se pose aussi la question de si toute cette stratégie peut fonctionner sur différents plans, politiques, économiques, techniques. Eva Thiebaud, je crois qu'on vous a récupéré. Vous avez mentionné au cours de l'émission les réacteurs de Three Mile Island, dont un en 1979 avait fondu, avait provoqué un véritable drame aussi, et qui reste quand même dans les souvenirs. Et le deuxième réacteur fonctionnait jusqu'en 2019. Il a dû être arrêté pour des raisons économiques. Est-ce que la relance par le nucléaire n'est de toute façon pas rentable?
Ce qui est sûr, c'est que les centrales nucléaires, ce sont des projets extrêmement complexes, extrêmement longs à mettre en œuvre, et que l'énergie nucléaire aujourd'hui, elle coûte très très cher aux États-Unis, beaucoup plus cher que de faire des centrales à gaz. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les premiers bénéficiaires énergétiques du boom de l'intelligence artificielle, des consommations d'énergie, c'est le gaz. Et peut-être dans un second temps, l'énergie nucléaire. Mais effectivement, cette énergie-là, elle coûte très cher, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Donc, on verra si vraiment l'administration Trump a les moyens de ses ambitions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des annonces qui ont été faites sur les petites centrales nucléaires, les small modular reactors, mais à voir aussi s'il est vraiment possible de produire de l'énergie électrique à un prix compétitif avec ces petites centrales. Aujourd'hui, les géants de la tech se tournent plutôt vers les vieilles centrales nucléaires, parce que justement, ça réduit les délais et ça réduit les coûts de production d'électricité. Vous en parliez notamment, le cas symbolique de Three Mile Island, qui a une centrale nucléaire qui a eu un accident grave en 1979, dont un des réacteurs a fondu et qui a littéralement traumatisé les États-Unis. Cette centrale se trouve toujours en Pennsylvanie, donc pas très loin de Washington, pas très loin de New York, on va dire à 2-3 heures de voiture. Donc, potentiellement, si l'accident avait été encore plus grave, ça aurait pu avoir des conséquences qui auraient été tragiques pour le pays. Donc, cette catastrophe reste bien sûr dans les mémoires, même si elle a tendance à s'estomper.
Et ça reste quand même aussi, ça fait partie du centre, on va dire, de cette stratégie, malgré toutes les difficultés à la fois techniques que vous venez d'évoquer. Vous parlez aussi d'un appareil vieillissant. Thibaut Michel, je voulais réagir à cette question. Et puis moi, j'avais une dernière question aussi, puisqu'on se demande si cette stratégie peut fonctionner ou non. On a parlé d'une volonté de domination énergétique, mais aussi d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de ses anciens partenaires commerciaux. Or, pour produire de l'énergie nucléaire, ça demande quand même un certain nombre d'accès, on va dire, au combustible nucléaire. On a vu récemment que Orano avait reçu un tiers de 2,7 milliards de dollars pour développer une usine à Oak Ridge dans le Tennessee. Est-ce que c'est une façon de s'émanciper de cette dépendance ?
Tout à fait. Alors oui, juste pour rebondir un peu sur ce qui était dit, qui était très vrai et intéressant, c'est le fait que aujourd'hui, pour suppléer à cette consommation croissante d'électricité qu'on va avoir dans les années à venir, les solutions qui sont avancées par l'administration Trump, c'est déjà de prolonger les centrales à charbon. C'est vraiment la principale. C'est plutôt une solution de court terme avec des centrales qui sont peu rentables économiquement. Et puis, c'est vraiment cette double ambition du nucléaire et du gaz. Alors, la question avec le nucléaire, c'est que ça va évidemment prendre beaucoup de temps et on est bien placé pour le savoir. Et sur le gaz, ça risque de prendre du temps aussi parce qu'on a une congestion aujourd'hui des carnets de commandes des fabricants de turbines à gaz, donc qui vous parle d'aujourd'hui 3, 4, 5 ans pour avoir une turbine. Donc, même si on a des ambitions très renforcées en la matière, ça prendrait aussi beaucoup de temps pour développer de nouvelles centrales.
Thibaut Michel, une toute dernière question, parce que c'est important. On pourrait se dire qu'en abandonnant tout ce qui est énergie renouvelable, parce qu'on l'a dit au cours de cette émission, et énergie verte, finalement, ça laisse un boulevard à la Chine qui est déjà à la pointe sur ces technologies-là. Est-ce que Trump a finalement renoncé à rentrer en compétition avec la Chine ? Ça peut paraître surprenant, le connaissant.
Alors, je dirais que ça dépend des secteurs, mais effectivement, sur ces technologies, notamment solaire et éolien, on ne voit pas vraiment d'ambition d'être en compétition avec la Chine. Sur des secteurs, par exemple, comme celui des métaux critiques ou autres, on a une vraie volonté, mais là-dessus, on a un vrai abandon de ces technologies. Et ça pose question pour le système électrique américain à l'avenir, parce que quand vous regardez la dernière décennie, les deux tiers des nouveaux actifs de production d'électricité qui ont été installés aux États-Unis, c'était de l'éolien et du solaire. Donc il y a une vraie force pour alimenter cette production d'électricité qui est complètement laissée de côté.
Et comme d'habitude, les politiques de stop and go, comme on dit, qui consistent à aller de l'avant puis à revenir sur les avancées réalisées les années précédentes, ne sont jamais bénéfiques ni pour l'industrie, ni in fine pour les consommateurs et les consommatrices. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, Eva Thiebaud et Thibaut Michel. Et puis on reste de ce côté de l'Atlantique puisque c'est vers le Brésil que nous nous dirigeons désormais.
France Culture. Entendez-vous l'écho, Aliette Ovine.
À l'époque de Lula, on volait. Voilà comment Carla, cuisinière à son compte et habitante de la favela da Paz, située à quelques 500 km au nord de Rio de Janeiro, se remémore les années 2000, marquées par l'arrivée au pouvoir de Lula. Des années où se concrétise une politique de crédit ouverte aux ouvriers du bâtiment, aux travailleuses domestiques, aux vigiles de nuit, aux agents d'entretien, aux laveurs de voitures, aux petits commerçants et aux vendeurs ambulants, à toute une classe laborieuse qui s'est ainsi vue littéralement pousser des ailes. Car il s'agit bien de pouvoir voler au premier sens du terme, en achetant des billets d'avion à crédit pour rejoindre sa famille à l'autre bout du Brésil. Il s'agit aussi alors de faire partie d'un mouvement économique plus global, celui de la croissance et de la consommation, de se sentir considéré comme citoyen et d'accéder au confort matériel pour celles et ceux qui en étaient jusqu'ici exclus. Tout cela avant que le progrès ne se transforme en piège sous l'effet de la récession du milieu des années 2010 et que la spirale de l'endettement ne se referme sur des individus qui se mettent à leur travailler la dette et à travailler pour elle. À la fin de l'année 2025, 72,9 millions de Brésiliennes et de Brésiliens étaient en défaut de paiement. C'est un record. Et c'est à leur rencontre qu'est parti Timothée Narin, socio-anthropologue et post-doctorant à l'Institut de Recherche pour le Développement. Il a soutenu une thèse intitulée « L'étreinte de la dette », une ethnographie de l'endettement des milieux populaires de Vitoria au sein et au-delà des favelas. Il est aujourd'hui notre invité d'Entendez-vous l'écho. À la fois matériel et symbolique, espoir et asservissement, l'endettement est aussi une lutte qui se noue en fonction des institutions bancaires, mais qui se mène bien souvent en dehors et dont Entendez-vous l'écho suit la trace dans cette nouvelle série. Et tout commence donc en octobre 2002.
L'euphorie hier soir à São Paulo. Après 3 échecs à l'élection présidentielle, Lula savoure enfin la victoire devant plusieurs dizaines de milliers de partisans. La victoire du changement dans un pays dirigé par les élites depuis la restauration de la démocratie en 1989. Ce changement qu'il a su si bien incarner durant la campagne et dont les électeurs attendent beaucoup.
Lula, c'est surtout l'espoir que la situation s'améliore enfin, surtout pour les plus pauvres.
La victoire de Lula, c'est important pour la justice sociale et l'égalité.
Moi, j'ai toujours voté Lula. Et enfin, ça y est, il est élu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de nous aussi.
Dès sa première conférence de presse, Lula rappelle sa priorité. Créer des emplois pour que tous les Brésiliens mangent à leur faim. Mais l'ancien syndicaliste Metallo promet aussi de respecter ses engagements financiers auprès du FMI notamment et de présenter un budget rigoureux.
Comment répondre rapidement aux attentes de millions de Brésiliens sans affoler ni les marchés financiers ni les investisseurs étrangers? C'est le défi que doit relever Lula et ce sera bien plus difficile encore, il l'avoue lui-même, que d'accéder à la présidence.
Un reportage diffusé au journal de 20h sur France 2. Timothée Narin, bonjour.
Bonjour Aliette.
Que s'est-il passé en 20 ans au Brésil depuis les promesses de campagne de Lula en vue des présidentielles où il est élu du reste le 27 octobre à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est joué au juste dans ce pays?
Ce qu'on voit, c'est vraiment un bouleversement social, moral, qui va largement au-delà de l'économie. Et votre introduction a été très bien là-dessus parce que la question de la dette a été au cœur de ces 20 dernières années au Brésil et elle a produit un tas de changements sociaux au sein des classes populaires, notamment le bas de ces classes populaires qui sont plutôt des favelas, donc des territoires où de gens qui occupaient des collines de manière au départ un peu illégale et qui sont restés au fil du temps. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a eu un processus vraiment très accéléré d'accession au crédit, d'accession à l'argent, aux cartes de crédit et aux moyens du coup d'avoir accès à ce que les gens n'avaient pas avant. Et du coup, les gens ont pu concrétiser des aspirations, concrétiser des espoirs. Et à travers ça, l'État aussi a fait une sorte de promesse de plus de dignité pour ces classes populaires et en même temps d'une certaine mobilité sociale avec l'idée que voilà, ces travailleurs du bâtiment, ces femmes de ménage, elles pourraient devenir une nouvelle classe moyenne. Et c'est ce rêve-là, en fait, qui, à partir de 2014-2015, est volé en éclats parce qu'il n'était pas soutenable à la fois pour des conditions économiques avec cette récession, mais aussi du fait même que le Brésil est un des pays au monde avec les taux d'intérêt les plus élevés.
Et donc, on comprend bien, il y a une forme d'accélération à la fois du temps, des possibilités aussi, de l'espace, je le disais, avec cette idée de pouvoir voler, rejoindre sa famille à l'autre bout du Brésil. Il y a toute une autre conception des relations sociales qui entre en ligne de compte. Ce sont ces relations-là aussi que vous avez observées, Timothée Narin, sur le terrain. Quelle a été votre approche en tant que socio-anthropologue? Je le disais, c'est ce que vous êtes. En quoi cela consiste exactement et quel a été votre regard?
Alors, mon approche, c'est vraiment une approche immersive. Donc, j'arrive au Brésil en 2016. Dans une favela de Vitoria, et c'est vraiment l'idée de vivre au milieu et de vivre un peu avec les gens. Donc en fait, principalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé pendant 7 ans dans la même favela, entre 1 et 5 mois, et en fait j'habitais au sein de 3 familles, principalement une famille qui était une famille qui avait une petite épicerie, donc j'avais une petite chambre au-dessus de l'épicerie. Donc ça me donnait à la fois une fenêtre sur ce qui se passait dans la rue et dans le quartier, et en même temps ça me donnait une porte d'entrée dans l'intimité d'une famille et des relations qui se jouaient, qui mêlaient un peu solidarité et conflit, donc voilà.
Et de ces observations-là, vous le dites, vous avez construit, ou en tout cas on a découlé une définition plus subjective de la dette. Alors on est ici dans une émission d'économie, on est connu pour cela, on connaît bien les problématiques de la dette, on en parle souvent. Mais qu'est-ce que ça implique que d'avoir cette vision subjective de la dette? Comment cela redéfinit cette notion?
Disons que avoir de la dette, avoir du crédit, c'est avoir une certaine autonomie et c'est pouvoir acheter ce qu'on n'arrive pas à acheter en épargnant. Et c'est pouvoir aussi ne pas dépendre des autres, que ce soit la famille ou que ce soit les amis. Et là-dessus, c'est aussi du coup ne pas avoir à prouver comment on va utiliser son argent. Donc moi, ma définition de la dette, c'est vraiment de comprendre à la fois ce qu'elle produit matériellement sur les gens, c'est-à-dire le coût qu'elle a, les intérêts. Au Brésil, voilà, il y a une expansion du capitalisme, grosso modo, dans les favelas, qu'on pourrait voir comme une forme de domination, et je pense que c'est tout à fait le cas, et aujourd'hui, on voit avec le recul historique comment ça provoquer une forme de nouvelle exploitation. Mais en même temps, à travers cet accès au crédit, il y a des choses qui se sont passées dans la possibilité de construire un nouvel étage de sa maison, dans le fait de pouvoir faire un cadeau à son petit-fils, lui acheter une moto, dans le fait de pouvoir prendre soin d'une personne âgée en lui achetant un fauteuil roulant. Donc du coup, le crédit, on ne peut pas le penser uniquement d'en haut avec cette vision de la domination. Il faut aussi reconnaître que l'argent, le crédit, se part d'une couverture un peu émotionnelle, plutôt positive, et qui fait que quand les gens ont commencé à perdre leur accès au crédit, du coup, là, c'est ce sentiment de dignité qui s'était construit, qui s'est effilé, et c'est là où, du coup, il y a une sorte de dégringolade et une perte d'estime de même que les gens avaient conquis, quoi.
Et c'est intéressant parce que ça va un peu à l'encontre aussi de ce qu'on a pu lire, notamment chez David Graeber, un célèbre anthropologue qui connaît très bien cette question de la dette, qui disait que justement parce que la dette était une relation monétaire quantifiable, ça en faisait une relation froide, impersonnelle. En fait, vous, ce que vous montrez aussi, c'est que c'est tout le contraire. Ce sont des relations chaudes, diverses et très personnelles aussi. Il n'y a pas de distance liée à la monétisation ou à l'objet même de l'argent.
Complètement, dans les relations. Complètement. Alors, je pense que Graeber, je suis complètement d'accord avec lui sur une grande partie de sa thèse, mais par contre, je pense que justement, ce pouvoir de la dette, moi, j'utilise un peu cette métaphore de l'étreinte de la dette pour comprendre qu'au Brésil, le crédit et la dette, c'est la même chose, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est juste qu'on utilise un mot quand c'est plutôt positif et l'autre quand c'est plutôt négatif. Mais ce que je comprends, c'est que voilà, il y a cette étreinte du crédit où les gens, en fait, s'endettent dans des petits bureaux de crédit, des petites sociétés financières, et c'est des relations très personnelles, on les appelle par leur prénom, parfois ils apportent à manger aux agents en espérant avoir une petite réduction. Donc il y a un côté un peu d'étreindre les clients de ces relations de crédit qui sont pour beaucoup des personnes âgées, pour beaucoup des femmes. Et du coup, c'est dans ce rapport-là, cette relation très, très concrète et de face à face que s'est construit l'endettement dans ces milieux populaires.
Alors il faut bien comprendre aussi pourquoi Lula mise à ce point sur cet accès au crédit, y compris pour les classes populaires les plus pauvres. Pour bien comprendre cela, je vous propose d'écouter un extrait d'un discours qu'il tenait en novembre 2010. Il faisait le bilan, justement, de son premier passage, on va dire, au pouvoir.
Nous sommes en train d'en finir avec ce temps où les seuls qui empruntaient étaient ceux qui n'avaient pas besoin d'argent. Durant un temps, la mode était de ne pas prêter. Et s'il fallait prêter, il valait mieux prêter beaucoup à un seul, un citoyen assis du côté du directeur de l'agence, qui parlait avec le directeur, échangeait des cigares avec lui, plutôt qu'avoir affaire à un tas de travailleurs ruraux et de tongs qui se rendaient là pour emprunter 500, 50, 30, 20 reais. Cela a changé. Et je pense que vous avez beaucoup de responsabilités là-dessus. Et que vous devez aller encore plus loin dans cette idée d'atteindre les États les plus pauvres, les plus en retard et de créer plus de conditions, en partant d'une chose simple. Le pauvre qui va avoir accès à 50 reais, il ne va pas acheter du dollar, il ne va pas acheter de voiture, il va acheter de la nourriture. Donc ce miracle de la multiplication qui est en train de se dérouler au Brésil, ce miracle doit continuer. En 2003, quand nous sommes arrivés au pouvoir, le crédit mis à disposition dans le pays entier était d'à peine 380 millions. Aujourd'hui, juste à la Banque du Brésil, il doit y avoir 380 reais. Et au Brésil, il y a plus de 1 600 millions de crédits mis à disposition.
Voilà, c'était Lula da Silva qui s'exprimait lors du forum sur l'inclusion financière à Brasilia, c'était en novembre 2010. Plus de 230 milliards d'euros de crédits mis à disposition. C'est un bilan plutôt positif que tire là Lula. Comment le comprendre, Timothée Narin? Est-ce que finalement, la raison pour laquelle cette politique a pris, c'est parce que ça satisfaisait tout le monde, les individus qui avaient accès au crédit, l'économie brésilienne dans son ensemble, parce que ça a fonctionné un peu sur le modèle du multiplicateur keynésien, finalement ça a entraîné toute l'économie, et puis le secteur bancaire aussi, est-ce que tout le monde y a trouvé son compte?
Je pense que c'est une politique qui a relativement permis à tout le monde de trouver son compte pendant, on va dire, à peu près une décennie. Parce que le contexte économique aussi était favorable, il y avait déjà eu à la fin des années 90 une stabilisation monétaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, moi j'étais très petit, mais voilà, il y avait une inflation hyper forte au Brésil, comme en Argentine, et du coup Lula, quand il arrive en 2002, l'économie du pays s'est stabilisée. Il y a un contexte propice à cette expansion-là du crédit. Et j'ai beaucoup aimé le premier reportage que vous avez passé, où on voit vraiment ce discours de Lula qui arrive au pouvoir, avec voilà cette idée de voilà
de concilier.
Je ne vais pas attaquer les intérêts des riches. Je vais payer la dette publique qui est hyper élevée avec des taux d'intérêt hyper élevés. Hein. Je ne vais pas attaquer la dette publique. Je vais lutter contre l'inflation, mais de l'autre côté, voilà, je vais créer des emplois. Bon, c'est des emplois très peu qualifiés, mais il y en a des millions qui sont créés. Je vais élargir un peu des politiques sociales qui existaient déjà. Bon, là, il y a le Bolsa Familia, qui est ce transfert social emblématique de Lula, et il y a cette politique de crédit. Et cette politique de crédit, c'est vraiment le... En fait, oui, à court terme, elle a permis de satisfaire des intérêts complètement contradictoires, mais en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au-delà de cette décennie, qui serait un peu une décennie glorieuse, pour faire un peu un petit parallèle avec la France, en simplifiant, au-delà de cette décennie glorieuse, cette politique n'était pas tenable, parce que la base de la politique luliste était de ne pas attaquer les intérêts des élites financières, et plutôt, on va dire, de aussi servir leurs intérêts en ne limitant pas les taux d'intérêt, en ne limitant pas l'accès aux données des consommateurs de crédit, en permettant des saisies directes sur salaire ou sur pension de retraite qui sont en fait dans la pratique abusive par les banques. Et donc tout ça n'a pas, enfin tout le crédit en fait dans l'ensemble n'a pas été régulé. Et là-dessus, ça a été un peu comme une bombe à retardement.
Et de fait, hein, les chiffres le prouvent bien. Hein, entre 2003 et 2015, les profits des quatre plus grandes banques du pays ont bondi de 460%. On voit bien là tout le lien avec la dérégulation, en tout cas l'absence de régulation aussi des taux d'intérêt qui explosent. De façon plus générale, l'endettement des ménages brésiliens passe de 20% en 2003 à 46% en 2014. Preuve que bon, ça trouve tout de même preneur. À cela, il faut quand même ajouter aussi, Timothée Narin, une politique assez active de redistribution via l'élargissement des prestations sociales. Tout ça soutient effectivement ce cercle vertueux, cette économie en plein dynamisme. Ce sont des années de croissance, mais on le disait, tout cela ne dure pas.
Mais où est passé l'argent ? Nous ne recevons plus de salaire depuis le mois de février. Et depuis septembre dernier, nos paies nous sont versées au compte-gouttes. Nous n'avons toujours pas reçu notre 13e mois qui devait nous être versé en décembre. Quant au salaire du mois de mars, je n'en parle même pas. C'est surréaliste. On ne sait même pas quand on recevra le salaire de février. Comment voulez-vous que l'on fasse ? Ce n'est pas possible. On est dans une impasse. Je suis à bout. En 2014, c'était le plein emploi. Nos politiques ont créé un enfer dans cette ville. Le chaos, c'est le mal-être total. Au contraire de ce que devrait poursuivre la politique, le bien-être des citoyens. Mais non, tout va de mal en pis. Maintenant, où que vous alliez, c'est la crise, les conflits, les affrontements.
Franchement, en ce moment, au Brésil, rien ne va. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas de la faute de la population. Nous sommes des travailleurs. Vous avez vu, là, je n'arrête pas. Ce matin, je me suis levé à 2h pour aller faire les marchés. C'est dur. Mais pour que vous ayez une idée de combien c'est plus dur maintenant qu'avant, eh bien, avant, j'avais toujours chez moi au moins 10 kilos de riz en réserve. Aujourd'hui, je n'ai jamais plus de quoi acheter plus d'un kilo et demi à la fois. Nous, les pauvres, on a beaucoup perdu ces dernières années. Je ne vois pas comment on va pouvoir redresser la situation. Ça va continuer d'empirer. Parce que les riches gagnent de plus en plus et nos politiques travaillent main dans la main avec eux. C'est une mafia des puissants. Et ça va empirer, parce qu'ils ont le pouvoir et aucune solution pour les pauvres. Alors que les riches gagnent beaucoup, les banquiers par exemple, même avec la crise. Le gouvernement va continuer de faire la même chose, sans solution pour la population, sauf pour leurs propres intérêts. Voler, toujours davantage.
Les témoignages d'Isabelle, professeure de philosophie, et d'Edson Maréché, qui ont été diffusés dans le grand reportage de RFI, c'était en mai 2017, qui témoignent de ce moment de bascule pour l'économie brésilienne, qui était jusqu'ici fondée en partie sur l'accès au crédit et que nous analysons aujourd'hui en compagnie du socio-ethnologue Timothée Narin. Alors à partir de 2015, on l'a dit, le pays entre en récession. En décembre 2016, l'augmentation des dépenses sociales est suspendue pour 20 ans. En 2017, la loi sur le travail est adoptée. Quelles conséquences de cet enchaînement d'événements, Timothée Narin, pour les individus qui appartiennent à la classe populaire précaire que vous avez pu côtoyer ?
La principale conséquence, c'est que le crédit est devenu nécessaire, encore plus nécessaire pour assurer la survie des gens. Et qu'avant, on l'utilisait peut-être pour faire parfois des cadeaux, pour espérer construire un nouvel étage dans la maison, ou parfois dans l'optique de se lancer dans un commerce. Là, c'est complètement différent. Ce qu'on voit, et ce que moi j'ai vu à partir de 2016, c'est qu'on utilise surtout le crédit pour acheter des aliments, pour payer des factures en retard et pas se faire couper l'électricité parce que c'est au bout de la troisième facture, donc faut aussi gérer les retards dans les factures, et pour des dépenses de santé, et aussi dans les favelas, il y a des urgences quotidiennes, un fils qui se retrouve emprisonné, on veut payer l'avocat pour qu'il sorte plus vite.
Donc il y a aussi, en fait.
Voilà. Donc là, ce qui se configure à partir de cette crise économique-là, c'est ce lien-là, crédit et survie, quoi.
on le voit, il y a un changement de nature, finalement, de la raison pour laquelle on emprunte de l'argent. Se mettent alors en place des stratégies. Vous avez commencé à l'évoquer, il y a cette idée de gérer le temps de façon différente en retardant les paiements. C'est un peu se faire crédit à soi-même dans le sens où on repousse le paiement jusqu'à ce que l'électricité soit effectivement coupée. Cette gestion du temps-là, elle est très importante aussi pour les habitants de la favela que vous avez côtoyée. C'est aussi une façon, et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est une façon de se dire que le temps financier, le temps du remboursement, le temps du paiement des factures devient le temps du quotidien. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, Timothée Narin, il y a une bascule, il y a une financiarisation du temps social? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça?
Complètement, oui. Je dirais que ce temps financier-là, il est scandé par de plus en plus de tâches à réaliser, que ce soit descendre la favela, aller payer telle facture, que ce soit retourner quand on est retraité, travailler chez son ancien patron en lavant le sol. On est retraité, du coup, on accepte de recevoir un peu moins parce qu'on cumule la pension avec cette petite entrée d'argent qui n'est pas déclarée, donc il n'y a pas de cotisation. C'est aussi faire des gardes d'enfants chez soi. Donc vous voyez, le temps est scandé par de plus en plus de tâches et il y a une intensification de ce travail pour payer la dette, mais surtout c'est pour payer des intérêts. C'est ça qu'il faut dire dans le cas du Brésil, parce que vous empruntez 1000 reais, peut-être 250 euros, vous allez payer 3000, donc ça veut dire 750 euros. Donc en fait, surtout, vous travaillez pour, au final, enrichir des actionnaires, enrichir des créanciers.
Alors là, il faut bien comprendre effectivement auprès de qui ces habitants s'endettent. On l'a dit, il y a une façon de procéder, qui est de repousser les factures. Il y a aussi un système qu'on connaît bien ici aussi, c'est le système de l'ardoise chez les commerçants de proximité, à condition effectivement d'avoir de bonnes relations avec eux, d'être digne de confiance. Ça aussi, ça a son importance. Est-ce qu'on peut dire, Timothée Narin, qu'une fois que ces systèmes-là de débrouille sont un peu parvenus à une forme d'épuisement, c'est alors qu'on se tourne vers des sociétés financières, ou est-ce que ça intervient dès le début dans la stratégie?
Ça peut intervenir dès le début parce que, notamment à partir du début de cette crise, en fait, plus personne n'a d'argent dans l'entourage, à quelques exceptions près. Et aussi les supermarchés ou les compagnies, elles permettent d'échelonner davantage, donc il y a toujours ce rapport au temps. Donc en fait, les gens vont surtout voir en premier des sociétés financières qui seraient l'équivalent un peu de 7LM ou Cofidis en France. Et en fait, c'est dans cette société-là qu'en fait ils préfèrent s'endetter quand ils ont des besoins urgents, parce que c'est un endroit où vous allez, on vous demande pas grand-chose, et en l'équivalent de 25 minutes, vous ressortez avec l'argent en main. Alors que si vous allez à la banque, bah, c'est 48 heures, c'est un peu plus administratif. Et donc, il y a une préférence, en fait, pour ces prêts d'argent rapides qui permettent de faire face aux besoins urgents. Et après, vous parlez un peu des ardoises des commerçants, des prêts dans les familles. En fait, tout ça s'imbrique, et un peu pour reprendre l'expression d'Isabelle Guérin, les gens, en fait, en permanence, vont jongler entre ces différentes formes de dettes. Et il n'y en a pas forcément une qui supplante l'autre. Mais voilà.
C'est intéressant ce rôle des financières, comme vous les appelez dans votre travail de thèse. Vous l'avez dit, c'est un peu l'équivalent de cet LM, mais est-ce qu'il faut comprendre aussi que les classes plus populaires ne se tournent absolument pas vers les grandes banques ou les banques plus institutionnelles? Est-ce que ça, c'est un recours qui n'est même pas envisagé?
En fait, dans les classes populaires, il y a seulement les personnes qui sont retraitées ou qui ont des pensions ou qui sont fonctionnaires qui peuvent accéder à un crédit qui s'appelle le crédit consigné. Et c'est un crédit où les remboursements, en fait, ils sont prélevés directement sur les pensions. Donc par exemple, vous recevez 1000 reais, et donc en fait tous les mois il y a 300 du remboursement qui va vous être prélevé automatiquement par la sécurité sociale, donc vous recevrez que 700.
Et ça avait été mis en place dès 2003 par Lula.
Ça s'est mis en place par Lula, et c'est un peu un des points de départ de l'expansion du crédit, et ça concerne surtout les banques. Mais ce qui se passe dans les favelas que j'ai étudié, c'est que il y a une minorité de personnes qui ont accès à ces crédits consignés, qui sont plutôt les grands-mères en général, plutôt des retraités, et que la majorité des autres personnes font des crédits dans ces sociétés financières-là. Et parfois, elles utilisent aussi, c'est souvent le cas des enfants au chômage ou des petits-enfants qui n'ont pas de revenus. Ils vont souvent accompagner leur grand-mère à la banque, mais aussi à la financière, faire des crédits en utilisant donc son identité.
Elle est intéressante, cette solidarité, ce lien-là intergénérationnel. Pourquoi ce sont les retraités et ES, dans la majorité du cas, qui sont en première ligne? Est-ce que cela tient exclusivement au fait qu'ils perçoivent effectivement une pension, donc relativement stable, on va dire, dans le temps? Est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans ce rapport au crédit et on va dire au troisième âge, au plus âgé au sein d'une famille.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que en l'équivalent de 20 ans au Brésil, la place de la personne âgée dans la famille, elle a complètement changé. Il y avait cette idée dans les années 90 de personnes âgées un peu abandonnées, laissées pour compte, un peu traînant dans la favela, dont on n'avait pas grand-chose à faire et qui était un peu parfois même délaissée par la famille. Et en fait, ce qui se passe aussi bien avec les politiques sociales qu'avec les politiques de crédit, c'est qu'on a ciblé les personnes âgées. Ça a été un choix politique de la part de la gauche au pouvoir. Et que du coup, le rôle de la personne âgée s'est complètement transformé. Elle est devenue cette personne qui est pourvoyeuse de revenus, pourvoyeuse de crédit et qui joue un rôle central. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'au-delà de la question de la dette, ce qui se passe dans la favela, c'est que beaucoup de jeunes femmes, autour de entre 16 et 18 ans, ont leur premier enfant. Et que du coup, c'est souvent les grands-mères qui élèvent ces enfants-là. Souvent, ces enfants-là appellent leur grand-mère maman. Et du coup, il y a aussi une question qui est propre à la parenté même de cet espace très populaire-là, qui fait que du coup, d'emblée aussi, les personnes âgées, notamment les femmes, ont un rôle énorme de ce qu'on appelle le care, quoi, en fait.
Et c'est ça, une forme de devoir moral aussi, de devoir maintenir la famille et de lui permettre de se perpétuer aussi, ça rentre en ligne de compte. Tout à fait, et là, encore une fois, ça se monétise finalement. Il y a presque un prix qui est mis sur ce devoir moral à rembourser les dettes pour pouvoir survivre sur des générations et des générations. Mais il arrive quand même parfois, Timothée Narin, que la situation devienne véritablement intenable, que les individus ne parviennent pas à rembourser leurs dettes. Et là, il s'agit d'un point extrêmement important parce que on n'a pas précisé, mais les financières n'ont pas vraiment de pouvoir de coercition sur les individus. Elles n'ont pas le droit de se saisir d'eux ou de leurs biens, de leur maison. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand un individu ne peut tout simplement plus rembourser ses dettes ?
Eh ben, en fait, c'est là où le système a certains petits, on va dire, interstices pour on va dire, donner du répit aux gens et leur relâcher la pression financière. Ce qui se passe, c'est que dans le cas des crédits qui ne sont pas saisis directement, donc de ces financières-là, en fait, les gens, quand ils n'arrivent plus à payer, en fait, s'ils ne payent pas, il ne se passe rien. Grosso modo, il n'y a pas de saisie du bien, la maison n'est pas gagée, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de gens qui viennent à leur porte, à la favela, sonner ou leur mettre la pression. C'est juste des coups de fil. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que bon, les gens quand même ont besoin d'accéder au crédit, donc ça peut être douloureux de perdre son accès au crédit. Sauf si, bon voilà, il y a d'autres personnes dans la famille qui acceptent de le prêter, et donc tout le monde vit sur une carte de crédit ou sur le crédit souvent de la mère ou de la grand-mère. Mais par contre, ce qui se passe au Brésil, c'est qu'il y a, voilà, il y a ce qu'on appelle des foires aux dettes. Alors, les foires aux dettes, c'est un peu des sortes d'événements qui se déroulent une fois par an où les gens peuvent renégocier leurs dettes. Et donc, c'est une manière à ces 70 millions de gens aujourd'hui, plus de 70 millions qui sont exclus de l'accès au crédit, de pouvoir récupérer leur accès au crédit. En portugais, on dit « limpa o nome », mais ça veut dire « laver le nom ». Donc vous voyez la force morale aussi, que la dette est liée à un nom propre, un nom sale, c'est très, il y a une consonance très religieuse là-dedans. Et donc en fait, ces événements-là, ces foires de la dette, moi au départ, naïvement, je pensais que c'était un peu comme les jubilés de dette décrits par Graeber, qui parle de la Mésopotamie, où on annule des dettes à chaque fin d'année, et que c'est une manière à la fois aux souverains de se relégitimer et à la fois aux gens de commencer l'année sans dette.
Mais là, c'est pas tout à fait le cas.
Là, c'est pas tout à fait le cas, oui. On est plutôt sur cette idée de rééchelonner les dettes. Bon, il y en a certaines où on réduit les intérêts, mais la plupart des dettes, l'idée, c'est surtout les gens viennent obtenir du temps pour rembourser plus de temps, et comme ça, ils redeviennent créditeurs.
Est-ce que c'est ce qui explique, Timothée Narin, qu'il n'y ait finalement pas tellement de contestation ? On pourrait se dire un système bancaire qui pratique des taux absolument fous, des familles qui sont réduites vraiment à un système de survie, ça peut provoquer une colère sociale. Ce n'est pas tellement le cas au Brésil. Est-ce que c'est cette possibilité de renégocier qui finalement amortit la colère sociale ?
Ça joue un rôle, je pense, c'est clair. Surtout que c'est des négociations individuelles, en face à face, dans un énorme gymnase. Mais que du coup, il n'y a pas cette dimension d'interaction collective qui permettrait peut-être que des contestations émergent. Donc je pense que c'est un ingrédient qu'il faut replacer un peu dans l'histoire longue des favelas, où il y a toujours eu des mécanismes pour flexibiliser le droit. Par exemple, il y a beaucoup de cas où certaines favelas, on disait qu'on allait expulser les gens, mais en fait, dans la pratique, jamais ils n'étaient expulsés. Il y avait toujours des petits mécanismes de faveur, de négociation, qui leur permettaient de rester. Donc en fait, la dette, on voit, elle vient s'intégrer aussi dans un ensemble de relations faites à la fois d'exploitation, mais en même temps de flexibilisation à certains moments.
On voit quand même que le piège de la dette se referme sur certains certains ménages et que cela grève largement leurs relations sociales. Il y a des très fortes tensions entre les mères et leurs fils, par exemple, ou entre voisins. Il y a tout un système de rumeurs aussi qui participe à cette exclusion, quelque part, de la vie sociale en raison d'un taux d'endettement trop élevé. Et pourtant, on a l'impression que Lula, revenu au pouvoir, remet un franc dans la machine. Il a lancé le 12 mars dernier le crédit du travailleur. Et puis, il y a aussi le lancement d'un autre programme entre juillet 2023 et mai 2024, le programme Desenrola, alors j'ai un très mauvais accent en portugais, mais qui veut dire dénouer, et qui vise justement à renégocier les dettes des particuliers. 15 millions de personnes ont pu en bénéficier. On a l'impression que Lula relance finalement sa politique de relance par le crédit, tout en ayant conscience des extrémités auxquelles ça a mené. Est-ce le cas, Timothée Darin? Quel regard vous portez sur cette politique du crédit renouvelé?
Je pense que Lula, dans l'ensemble, là, depuis qu'il est revenu au pouvoir, il a une marge de manœuvre politique extrêmement faible, avec un congrès où son parti est minoritaire. Et je pense que cette politique de crédit-là, elle montre que la gauche brésilienne n'a pas du tout appris de ce qui s'est passé, et qu'il y a eu peut-être un souci de faire sa propre autocritique sur ce qu'a engendré cette politique-là, et que c'est une politique qui intervient dans un contexte qui est complètement différent de celui d'il y a 20 ans. On est là dans un contexte où les gens ont de moins en moins d'argent, ils sont déjà beaucoup plus endettés qu'il y a 20 ans, les salaires sont plus faibles, donc en fait l'ensemble des conditions qui étaient réunies il y a 20 ans ne le sont plus maintenant, et du coup c'est une politique qui peut produire que des effets limités. On le voit sur Desenrola, il y a toujours beaucoup plus de personnes en défaut de paiement après le programme qu'avant, donc ça a eu des effets très très restreints.
Merci beaucoup Timothée Narin, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue post-doctorant à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Je cite également le titre de votre ouvrage qui va paraître dans quelques mois chez CNRS Éditions, L'étreinte de la dette, survivre à crédit dans les favelas de Vitoria. Et il est l'heure de retrouver désormais l'économiste Alexandra Roulet qui tire comme tous les lundis son fil de l'écho, le fil qui est, je le rappelle, également un podcast qui existe dans sa version histoire, philo, science ou encore pop culture. Mais Alexandra, aujourd'hui, vous décortiquez ce que cachent les écarts de salaire entre femmes et hommes.
Le fil écho.
Malheureusement, on en est encore à parler des inégalités salariales femmes-hommes. Pourquoi ? Parce que si on compare le revenu salarial annuel moyen des femmes et des hommes en France en 2023, on trouve un écart de 22%. Alors, à quoi c'est dû et comment peut-on l'interpréter ? Bon, il faut quand même partir d'une note positive. Il y a 30 ans, cet écart de revenu annuel était de 40%, donc il y a eu beaucoup de progrès. Mais clairement, 22%, cela reste insatisfaisant. Il y a plusieurs facteurs derrière ce chiffre. D'abord, les femmes sont plus susceptibles de travailler à temps partiel, voire de ne pas travailler du tout, en partie pour s'occuper des enfants ou assumer d'autres rôles d'aidants non rémunérés, par exemple auprès de leurs parents âgés. Lorsqu'on compare les revenus annuels, certaines femmes qui ne travaillent pas ou très peu apparaissent comme des zéros qui font baisser la rémunération moyenne des femmes. Si on tient compte de ces différences, c'est-à-dire pour simplifier, si on compare le salaire de femmes et d'hommes qui travaillent à temps plein, l'écart se réduit à 14%. Cet écart-là s'explique en grande partie par le fait que les femmes, en moyenne, n'exercent pas les mêmes métiers que les hommes et que trop souvent encore, elles n'occupent pas les mêmes postes dans la hiérarchie. Une fois qu'on compare des hommes et des femmes qui ont des profils similaires et qui font le même job, alors l'écart se réduit à 4%. Ce 4% traduit-il des discriminations, au sens où un employeur offrirait un salaire moindre à une femme qu'à un homme pour un poste donné, juste parce que c'est une femme? En réalité, pas forcément. Parce qu'un emploi, ça n'est pas qu'un salaire. Et les femmes ont tendance à davantage valoriser que les hommes les dimensions non salariales. Prenons un exemple. Une femme, Delphine, et un homme, Benoît. Ils habitent dans la même ville, ont le même profil, cherchent le même type d'emploi. Eh bien, confrontée aux mêmes offres, par rapport à Benoît, Delphine aura tendance à choisir un job plus proche de chez elle, même si cela implique un salaire plus faible. Encore une fois, cela n'est pas vrai de toutes les femmes, cela est vrai en moyenne. De la même façon, les femmes valorisent davantage le fait de pouvoir bénéficier d'horaires flexibles, d'avoir une culture d'entreprise saine ou encore une structure à taille humaine, même si cela leur coûte des euros sur leur fiche de paye. Donc la majeure partie des écarts salariaux femmes-hommes reflètent des « choix » entre guillemets, mais ces choix peuvent être contraints, notamment par les normes culturelles et sociales, les identités de genre, etc. Mais le plus important, c'est que même si à emploi égal, L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est devenu assez faible et reflète essentiellement des différences de préférences sur les aspects non salariaux. On ne peut pas se contenter de ce chiffre de 4%, parce que précisément, trop souvent, les femmes et les hommes n'ont pas le même emploi. Dit autrement, ce qui compte, c'est le revenu annuel, et donc le chiffre de 22%. Même si on peut le rationaliser par des différences de temps de travail ou de métier, ça ne permet pas de le minimiser. C'est ce chiffre-là qu'il faut continuer de réduire.
Merci beaucoup Alexandra, on vous retrouve sur l'application Radio France qui est aussi l'endroit où vous pouvez retrouver cette émission et vous y abonner pour ne rater aucun épisode.